parler d'Europe et de ses institutions par la fiction. Pas facile. Le fonctionnement est complexe, les enjeux immenses, les personnages innombrables et les sujets quasiment infinis. Pourtant, une série française s'y attelle depuis 2020 sur la plateforme numérique de France Télévisions. Parlement, donc, c'est son nom, sous ses allures de comédie de bureau loufoque, est une plongée ludo-éducative dans les arcanes d'un mariage à 27. Alors comment parler sérieusement d'Europe à travers des épisodes de 25 minutes? Comment le faire sérieusement sans se prendre au sérieux? On en parle avec la productrice déléguée de Parlement, Fabienne Servan-Schreiber. Bienvenue dans La Lorgnette. Bonjour Fabienne Servan-Schreiber, donc comme je le disais en introduction, vous êtes la productrice déléguée de la série Parlement, on va en parler pendant toute cette demi-heure. D'abord je rappelle que cette émission fait partie donc d'un cycle que nous proposons ici à Studio ZEF dans le cadre d'une série donc d'émissions autour de l'Europe et des élections européennes du 9 juin. Qui arrive. On est ici à la Maison de Bégout où a lieu la projection de plusieurs épisodes de Parlement à l'invitation donc de l'association Europe Ensemble que nous avons reçue dans la précédente émission concernée au sujet de l'Europe. Alors on va commencer donc pour parler de la série. Quelle est la vision de l'Europe que Parlement défend?
Écoutez, on a eu envie de faire cette série pour faire découvrir l'Europe aux gens avec sa complexité bien sûr, mais avec surtout de l'humour et un côté décalé pour que le public ne s'ennuie pas. Donc c'est vrai qu'on se moque un peu des uns et des autres, mais en même temps, toute l'équipe est profondément pro-européenne et c'est vrai que c'est une série qui finit par être pédagogique, puisqu'on découvre comment ça marche. Et c'est assez compliqué pour que ce soit étalé sur plusieurs saisons, pardon. Mais voilà, c'est ce qu'on a eu envie de faire.
Ça ressemble souvent à un théâtre, notamment l'institution européenne, mais je pense que c'est valable pour plein d'autres endroits de la vie. Le sujet, le décor aussi, les grands hémicycles, les interminables couloirs, en aurait pour moi fait un superbe lieu de drama, un peu à la Maison Blanche, à la West Wing. Alors c'est quoi le choix de la comédie qui a été portée et qui est portée par la série Parlement?
Alors, d'abord, vous avez raison d'insister sur le décor, parce que c'est tellement extraordinaire cet endroit que c'est un personnage à soi tout seul et que ça donne à voir aux gens un endroit incroyable et très très spectaculaire. Le choix de la comédie, c'est pour attirer le public, c'est pour attirer les jeunes. Nous sommes allés sur la plateforme de France Télévisions justement parce qu'on s'adressait aux jeunes. Et que voilà, ça marche toujours. Quand c'est réussi, la comédie, ça marche bien. Les gens ont envie de se détendre et d'apprendre des choses en même temps et de rigoler des uns et des autres. Et je crois que sur ce plan-là, c'est tout à fait réussi. Et c'est grâce à mes auteurs hein, et à toute l'équipe et la réalisation et les comédiens.
J'en profite pour nommer notamment Noé Debré, oui. Donc, qui est le créateur de la série et le scénariste qui a, je crois, écrit, en tout cas chapeauté, toute l'écriture des trois saisons actuelles et de la quatrième,
qui
sera
absolument
la dernière, il me semble.
C'est voilà, ça. Alors ça s'est fait parce que moi, je voulais faire quelque chose sur l'Europe, dans la mesure où j'ai vécu avec un député européen qui était passionné par son métier et que je voyais parallèlement à ça que les gens autour de moi ne connaissaient rien à l'Europe et du coup n'aimaient pas l'Europe parce que quand on connaît pas, donc il y a un Europe bashing, tout le monde critique tout le temps, c'est bureaucratique, c'est vrai d'ailleurs, hein, tout n'est pas parfait.
On le voit bien dans la série.
Hein, oui, bon voilà, ça marche pas, etc.
Écrasante.
Et je crois que les gens ne se sont pas du tout rendu compte que en Europe, désormais, nos vies se jouent là-bas, nos vies quotidiennes. Et c'est ça qui est important de raconter au public, je pense. Et j'ai eu la chance de tomber sur Noé Debré, qui m'a tout de suite dit oui, parce que, comme il l'a souvent dit dans des interviews, il est né à Strasbourg, devant le Parlement européen.
Il avait vu sur le Parlement européen de
voilà,
Chine, je crois.
Et que du coup, voilà, c'est toute son histoire, toute sa vie. Et il s'est rapproché de Pierre Dorac et Maxime Caligaro, qui sont ce qu'on appelle, entre guillemets, des eurocrates, c'est-à-dire qui travaillent là-bas, qui avaient écrit un roman, qui sont des plumes magnifiques. Et du coup, comme ils connaissent extrêmement bien l'institution, voilà, le talent des uns et des autres se sont ajoutés. Et je crois que c'est très réussi, c'est vrai.
Donc on parle de l'addition d'un scénariste de fiction et de conseiller, de spécialiste, on va dire, de, voilà. Du sujet européen pour créer cette série. Comment ce travail s'est articulé? Est-ce qu'il a fallu... Alors, on y revient, c'est une comédie, donc il faut des gags, il faut des situations comiques, etc. Mais il faut aussi aborder, j'imagine, toute la question des institutions, le processus de loi, de projet de loi, etc. Sérieusement. Donc là, le travail des conseillers, est-ce qu'il y a eu aussi d'autres conseillers techniques, spécialistes pour construire tout ça?
Non, ils ont...
Non, ils y connaissent suffisamment.
Enfin oui, bon après ils ont lu, ils ont enquêté, ils ont eu des rendez-vous là-bas. Il fallait se faire tout un imaginaire avec des personnages à identifier qui puissent porter les uns et les autres, voilà, des problématiques et surtout, comme vous dites, des situations de comédie parce que sinon ça marcherait pas. Il faut tenir 10 fois 26 minutes et même 40 fois 26 minutes. Donc voilà.
Il y a, est-ce que pour malgré le fait qu'on reste dans une comédie, qu'il faut une dose de caricature, de stéréotype pour faire fonctionner la mécanique de la comédie? Comment faire rentrer le sérieux, le poids de l'institution européenne dans des caricatures, des stéréotypes pour malgré tout faire avancer.
Mais je pense que il faut décrire l'enjeu. Voilà, une fois qu'on a trouvé l'enjeu, d'abord on crée des personnages, ensuite on définit un enjeu qui nous fait partir d'un endroit et arriver à un autre, et c'est justement un parcours dans les institutions.
Un projet de loi, c'est donc comparable à un fil scénaristique d'un personnage?
En tout cas, c'est ce qui a porté la première saison. Voilà, comment est-ce qu'on fait un amendement? Après, ça a été comment est-ce que on va plus loin dans l'établissement des lois avec le fameux trilogue. Après, la troisième saison, c'est comment est-ce que notre député peut devenir commissaire. Et la quatrième saison, ça va être comment fonctionne le Conseil de l'Europe, qui est extrêmement mystérieux.
Alors parlons du mystère des institutions. On a toujours un peu de mal à s'y retrouver entre les différents modules européens. Et la série joue sur cette ambiguïté, ce mystère. Si les scénaristes s'y connaissent bien, il faut quand même réussir à apporter cette phase de décryptage. Moi qui ai vu presque l'intégralité, je suis au milieu de la saison 3 quand on se parle, j'ai encore du mal à savoir à quel endroit parfois sont les héros. Donc ce côté mystérieux et labyrinthique, il est voulu, il est recherché aussi.
Oui, mais j'espère qu'on n'a pas raté notre coup. Bon, en même temps, c'est pas très grave, hein, mais je suis désolée que vous n'ayez pas tout compris.
Les personnages en jouent aussi souvent de savoir où on se trouve, à quel endroit il faut aller pour déposer ce projet, etc.
Toujours, bien sûr, oui.
Samy, donc Samy Cantor, le héros de la série, est au début un assistant idéaliste et assez naïf sur les enjeux européens. Comment il a été pensé pour nous faire, évidemment, c'est par lui hein, qu'on rentre et qu'on vit avec ce voyage européen.
Il a été pensé comme est ce merveilleux Xavier Lacaille, quoi, c'est-à-dire un jeune homme plein d'ardeur et de naïveté et d'envie et qui arrive... je crois, devant le caprice des dieux, comme le dit le premier épisode. Il est à l'extérieur, il ne sait pas où il est. Il dit, je suis devant un grand caprice des dieux. Et puis bon, le ton est donné. Voilà, donc, et après ça, effectivement, il va se construire lui-même. Il va d'abord découvrir, il va comprendre, il va se construire. Il va prendre de l'épaisseur. Et la quatrième saison, c'est plus tout à fait le même Samy qui existe, en tout cas sur le plan professionnel.
Déjà en saison 3, il a un peu perdu de son
bien
idéalisme
sûr,
et de sa naïveté. Il est presque passé de l'autre côté, pas tout le temps, mais on voit qu'il a appris à être un peu cynique. Et
à avoir une certaine ambition personnelle.
Exactement.
Dans ce dédale.
Tout à fait. Quelle est la position politique de la série?
La position, c'est de faire connaître et donc de faire aimer. Voilà, je pense que c'est de faire que le grand public ait accès à ces endroits inconnus et assez mystérieux, comme on disait tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que le public s'empare de cet univers et voilà, et le fasse sien, donc qu'il soit que ça devienne familier, que ça devienne que ça fasse partie maintenant des catégories mentales des gens.
Et l'idée, c'est de faire, en faisant aimer la série, c'est de faire aimer l'Europe.
Bien sûr.
Ouais. La série est définitivement pro-européenne.
Ah bah ça, évidemment. Et si on se permet de sourire, de rire quelquefois il y a des petits excès d'ailleurs, c'est pour attirer le public et pour qu'il se familiarise et qu'il ait envie de continuer de suivre les destins de tous ces personnages et qu'il apprécie, apprécie ce qui se passe en Europe, même si c'est compliqué. Absolument.
Moi, je trouve la série effectivement plutôt dans cette tendance pro-européenne et puis progressiste, écologiste, de gauche, on va dire modérée, qui évoque des projets relativement consensuels. Comment être contre la fin de l'abattage des requins juste pour la chasse à leurs ailerons. Mais on voit que même des projets consensuel comme peut l'être le finning se heurte finalement à tout un tas de barrières pour arriver à leur interdiction, à une certaine réglementation autour de ces sujets. Le chemin est constamment semé d'embûches en Europe pour des projets consensuels.
Mais en France aussi, partout, et dans chaque entreprise, dans chaque projet, dans chaque film, dès qu'on commence une entreprise quelconque, qu'elle soit culturelle ou autre, il y a des obstacles de tous les côtés. Non, ce qui est amusant, c'est que le finning a été la première idée de Noé, c'est-à-dire il y a quasiment 10 ans de ça, hein, et que finalement, ça a été voté 5 ou 6 ans après. Bon, et là, dans la deuxième saison, tout à coup, il a l'idée de faire le Blue Deal, et de mettre ça dans les mains du personnage de Valérie. Et que là, il y a deux candidats aux élections de cette année, ouais. Valérie Hayet et Glucksmann, ouais. qui ont dit qu'il fallait faire un Blue Deal, sauf qu'ils l'appellent un peu différemment, mais c'est la même idée. Donc finalement, Noé Debré et ses équipes ont été en avance. C'est rigolo.
Un peu précurseur. Parlons d'un personnage important, très important à mes yeux, Imone, fonctionnaire du Parlement européen, cultivé, incorruptible. Clairement, il a été écrit comme un fantasme, un être supérieur qui veille au bon fonctionnement de l'ensemble.
Puisque le compromis F, qui modifie le paragraphe 13, est composé de l'amendement 45, déposé par le PPE, qui vous est à présent familier, de l'amendement 67, des Verts, auquel s'ajoute un amendement 13, des sociaux-démocrates. Vous gardez naturellement en tête que l'amendement 13 ne portait pas initialement sur le paragraphe 13.
Oui, oui.
Qui sont donc tous rassemblés dans le compromis F.
Mais tous ces amendements, ils sont contradictoires, non ? Mmh. Comment je fais pour mettre tout le monde d'accord là-dessus, du coup ?
Je ne peux pas répondre à cette question.
Pourquoi ? Imone ?
J'essaye de trouver les mots qui vous permettront de me comprendre.
Quand même.
Vous voyez une saucisse ?
Ouais.
Eh bien moi, humble administrateur, je suis la machine à saucisse. Et c'est vous, les élus, qui décidez de ce que vous mettez dans la machine à saucisse.
Et qu'est-ce qu'on est censé mettre dans...
Je n'ai pas le droit de vous conseiller sur la recette des saucisses. C'est à votre conseiller politique de vous orienter à ce sujet.
Oui, d'accord, mais alors Maurice me déteste. Donc...
Les conseillers politiques sont soumis à l'autorité de leurs députés.
Donc de Michel ? C'est-à-dire que Michel, il peut obliger Maurice à m'aider ?
Il se situe à un échelon plus élevé dans la chaîne alimentaire du Parlement.
Vous êtes sûr ? Michel, il est... Vous l'avez déjà rencontré ?
Gesetze sind verwürst. Man sollte besser nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden.
Quoi ?
C'est une citation de Bismarck. Sur la politique et les saucisses.
Il fallait à la fois personnifier tout un tas de petites mains du Parlement européen et puis aussi leur rendre un peu hommage, les glorifier par un personnage un peu au-dessus de la mêlée.
Oui, je crois qu'il représente comme ça la force tranquille, le don absolu à une institution, à des règles, au fait qu'il faut que ça marche. Le comédien William Nadilam est vraiment extraordinaire. Et je crois que ça fonctionne bien. Il est rassurant. Et c'est amusant de voir nos personnages qui vont le chercher dès qu'ils ont un problème et sa manière de réagir à chaque fois.
On a l'impression avec ce personnage... secondaire mais centrale, d'un don, comme vous le dites, absolu à l'institution. Ces gens-là, j'imagine qu'on on les croise aussi, ces petites mains de l'Europe qui travaillent dans l'ombre, sans relâche, pour faire avancer tout ce paquebot incroyable.
Il y a des centaines de personnes qui sont totalement dévouées à la bonne marche des choses, même s'ils sont les premiers à critiquer, hein, à savoir ce qu'il faudrait améliorer ou ce qu'il faudrait stopper. Mais effectivement, comme toujours, les institutions, ce sont des hommes et des femmes derrière. Donc cette série permet d'en montrer certains et de faire comprendre qu'il faut incarner par des êtres humains, femmes et hommes, les institutions.
Je reviens sur le tournage. On voit clairement que certaines scènes, certaines séquences ont lieu dans les vrais extérieurs. Il y a aussi, j'imagine, du studio, tous les bureaux, tout ça, c'est du studio.
Non, tout est tourné. Au Parlement.
D'accord,
tout est au Parlement. Voilà, s'il y a une chose qu'on a tournée à l'extérieur, c'est le bureau du président.
D'accord.
Voilà. Qu'on a tourné, je ne sais plus où, mais à Strasbourg, à côté. Je me demande si ce n'est pas Arte ou un truc comme ça.
D'accord, ok.
Il y a eu quelques décors, mais sinon c'était le
Parlement.
Très peu.
Même les bureaux, tout ça, c'est le Parlement. Comment, alors, ma question est encore plus importante, parce que moi je pensais que ça se déroulait uniquement dans les grands extérieurs et ces grands couloirs. Comment la jonction, la modulation de ces tournages est-elle possible dans une institution qui vit en permanence
Mais c'est-à-dire qu'ils sont
pour
pas
autre chose.
Oui, enfin, sauf qu'ils sont pas
tout
comme
le temps.
Comme il y a deux lieux, il y a Bruxelles et Strasbourg.
On va y revenir.
Et voilà, on a joué sur
l'idée que
d'absence.
Des fois, les bâtiments peuvent être vides,
voilà.
Ou en tout cas moins utilisés.
On s'est adapté à l'agenda du Parlement européen. Mais c'est vrai qu'au début, on a eu du mal à les convaincre. Ça, je dois le dire. Hein. Et Thomasen qui a produit la première saison, a insisté. Nos amis qui faisaient partie de l'écriture aussi, on a fini par les convaincre. On a été aidés par des personnes. Voilà, je ne vais pas retrouver son nom non plus, malheureusement. Et maintenant, ils adorent la série. Non, en fait, au début, ils nous ont exprimer que s'ils nous donnaient l'autorisation à nous de tourner, il faudrait donner l'autorisation à
C'était
trop de tournages.
Une porte ouverte.
Voilà. Ouais. Bon, mais on a insisté sur l'identité de cette série qui était quand même consacrée au Parlement européen, qu'on ne pouvait pas tourner ailleurs. Et heureusement, parce que comme on le disait tout à l'heure, le décor est un personnage à soi tout seul. Et maintenant, ils sont extrêmement contents de cette série, extrêmement contents. On a fait des avant-premières à Strasbourg, à Bruxelles. La présidente est venue, tout le monde est ravi. Bon, voilà. Donc, tant mieux. C'est super.
Et comment perçoivent, quel est le retour des députés européens sur la série ? Est-ce que vous avez des retours
politiques ?
Alors
moi j'ai eu de tout. Ouais. Non, j'ai pas eu de retour politique. J'ai des copains députés européens qui m'ont dit je ne me retrouve pas là-dedans.
Ouais.
Bon, voilà. Et puis il y en a d'autres qui adorent. Et c'est vrai que on rencontre beaucoup de gens assez fanatique de cette série. Bon, tu me diras que les gens qui n'aiment pas, ils viennent pas vous le dire en général, mais je vais dans des endroits différents et je rencontre ça.
Quelle est la portée, même si elle est évidemment polyglotte et ça semble primordial au vu du sujet, quelle est la portée internationale de la série ?
Alors la série a été vendue par France Télévisions Distribution, je ne sais plus si c'est 15 ou 16 pays, beaucoup de pays en Europe, aux États-Unis. Et même en Malaisie, je ne me demandais pas pourquoi. Alors, ce ne sont pas toujours des grandes chaînes. Hein,
bien sûr.
Mais ça peut être des plateformes. Et en tout cas, ça circule et c'est super. Voilà. Et on continue.
Et quel est le nombre de visionnages ? Je rappelle que la série a été diffusée sur la plateforme 100% numérique, France TV Slash.
Voilà.
À la base, elle a eu le droit à une diffusion dans l'été, je crois.
Linéaire.
Sur la grille d'été de France 2.
Voilà. Tout a été diffusé sur la plateforme où on peut encore la voir.
En intégralité.
Et où ça va continuer à être visible. On a eu une première diffusion linéaire sur France 5 de la première saison et la deuxième saison, et je crois la troisième sur France 2.
Il me semble, ouais.
Ça a moins marché en linéaire, mais en gros, on arrive à 7 millions de spectateurs et on est très contents. Et les Allemands adorent la série et ils voulaient continuer. Malheureusement, France télévision souhaite arrêter après la quatrième saison. Mais les Allemands étaient fanatiques. Ils m'ont dit, on continue, on change de diffuseur s'il le faut. Mais ce n'est pas des choses qui se font.
Donc la série s'arrête à la quatrième qui est
voilà,
tournée, hein, je
la
crois.
La quatrième saison.
Et qui va arriver en fin d'année peut-être.
Qui va arriver, j'espère, en fin d'année. Et en revanche, la nouvelle expérience que nous venons de vivre, c'est, puisque nous sommes en allée électorale, mmh. il se trouve que Jean-Marc Liberer, qui dirige l'Institut Jean Monnet, m'a écrit un jour en me disant « Madame, on adore votre série, on rentre en année électorale, est-ce que vous nous donneriez des rushs pour qu'on fasse des petits clips pour inciter les jeunes et les gens à aller voter ?» J'ai dit que c'était une très bonne idée, mais je voyais pas tellement comment le faire avec les rushs. En revanche, j'ai demandé à mes auteurs s'ils étaient d'accord pour écrire des petits clips, ce que Pierre Dorac a fait avec Noé par derrière. Et on a fait 8 petits clips qu'on va maintenant diffuser et sur les chaînes de télévision. D'abord, évidemment, France Télévisions, mais aussi France 24, TV5 Monde, LCP, etc. Et j'espère dans d'autres pays. On a écrit à tous nos partenaires et les Allemands le diffusent aussi. Et puis beaucoup, beaucoup sur le numérique où vous pouvez dire à vos auditeurs qu'ils s'emparent de ces clips et qu'ils n'hésitent pas à les partager pour qu'on touche les gens qui n'ont a priori pas envie d'aller voter. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils aillent voter.
Dernière question, avant-dernière question. Est-ce que des sujets comme la guerre ou en Ukraine ou le Covid qui a été un peu abordé mais de loin sont des sujets qui peuvent être traités dans une comédie et dans la série Parlement a fortiori?
Alors on peut tout traiter dans une comédie par principe. Mais là, Noé ne voulait pas qu'on s'ancre trop dans une période
dans le réel,
donnée
dans une période, ouais,
pour pouvoir plutôt. Voilà, pour pouvoir exister longuement. Et donc, il a souhaité être discret sur des phénomènes d'actualité trop forts. Mmh. Voilà.
Très bien. Et donc, dernière question, pour en revenir à ces multiples lieux de débat et de vie démocratique de l'Europe. Strasbourg, il faut le garder.
Il paraît que oui.
Donc on le garde alors.
Voilà, exactement.
En tout cas, la série s'y déroule également à Bruxelles aussi, évidemment.
Oui. Et vous allez découvrir le Conseil de l'Union européenne dans la quatrième saison.
Très bien. Et donc, merci beaucoup, Fabienne Chervan-Schreiber, pour cette interview. On va aussi donner la parole aux spectateurs et spectatrices de la série, puisqu'on va tenter de vous faire entendre, à chers auditeurs et auditrices, la captation de ces échanges qui auront lieu après la projection des épisodes. Merci beaucoup.
Merci à vous.
I like cheesy Italian pop songs. That's my weak spot.
Quando penso al tuo sorriso, io dimentico i miei guai. Quando penso a ieri noi innamorati e a quello che non siamo stati. Quando penso al paradiso, vedo solo gli occhi tuoi, e quegli stessi occhi l'ultima volta mi han detto non ti voglio più. Dei miei pensieri, come se fosse ancora ieri. Penso a te, ma non trema fuoco il cuore. Penso a
j'ai commencé à regarder la série et j'ai arrêté parce que je ne supportais pas la dérision qui était de, qui me semblait ridiculiser complètement l'action de tout ce qui se passait au Parlement. Et voilà, et j'ai abandonné. Donc, oui, mais oui, ça peut être un problème aussi que des gens abandonnent parce que je suis une européenne convaincue et donc ça peut être un problème que des gens abandonnent. Là, oui, j'ai trouvé qu'il y avait moins de dérision.
Oui,
c'était
le personnage de Michel est quelquefois très caricatural, le président.
Au début, c'était le premier épisode, je pense, c'est vraiment.
Voilà. Oui.
Bonjour, merci. Moi, j'ai découvert la série. Alors, comme quoi, on a plusieurs regards dans la salle. Parce que moi, justement, j'ai apprécié la dérision parce que j'ai l'impression que, enfin, un peu comme disait Cécile, qu'elle fait passer justement le message peut-être plus facilement, en fait. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la frontière entre le compromis qui est nécessaire dans l'Union européenne et la compromission qui, elle, est coupable, notamment avec la présence des lobbies, qui a un système de fonctionnement qui est vraiment complètement différent, parce qu'il est clair, au moins dans l'Union européenne, les lobbies ont le droit d'être là, alors qu'en France, il est plus ou moins discret ou caché, en fait.
Mais je sais que les compromis, là-bas, c'est assez terrible, puisque souvent même, on a besoin des voix de l'extrême droite pour faire voter des textes. Mmh. Et je crois que c'est arrivé que ça se fasse, bon, ce qui, pour les Français, paraît énorme, parce qu'on n'a pas l'habitude en France, mais...
Oui, ben, je voulais aller un peu dans ce sens-là, justement, parce que moi, je découvre votre série. Alors bon, bien entendu, c'est drôle, c'est amusant, ça rejoint un peu la tradition, je dirais, bien française, mais ça existe dans d'autres pays, de se moquer des politiques, et ça fait pas de mal. Puis si on avait eu le droit d'en rire, alors là, ça deviendrait franchement dramatique. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un côté pédagogique, effectivement, qui est de montrer que dans cette Europe de 450 millions d'habitants, et ben, faut toujours discuter, il faut toujours avec, bon, c'est vrai, toutes ces institutions qui sont complexes et parfois mal comprises entre les conseils, les ministres, le Parlement, la Commission, etc. Et ça montre bien qu'il y a une discussion permanente, des allers-retours entre les États, les élus, etc. Et ça peut aussi être, à mon avis, quelque chose de pédagogique, quoi. Donc, une fois qu'on a dépassé le côté un peu caricatural, quoi, y compris sur l'intervention des lobbies, qui est quelque chose qui est parfaitement admise et normal, quoi, à condition qu'elle soit transparente. Quoi. Mais bon, ça, je trouve que ça fait œuvre de pédagogie.
C'est ce qu'on a voulu faire. Si vous voulez, vous sachez que la France a un retard colossal dans le fait de mettre de la politique à l'écran, voilà, en fiction. Hein. Les Britanniques, les Américains ont des séries depuis 50 ans qui marchent très bien. Les Britanniques se sont permis des trucs incroyables. Bon, vous connaissez le White House, vous avez peut-être vu Yes Prime Minister qui était inouï tellement c'était caricatural, mais c'était drôle. Et nous, on a ramé, moi je fais partie de la vieille génération de la production indépendante, et on a ramé pour mettre de la politique à l'écran. Et c'est très récent, si vous voulez. Que ce soit Barre Noire ou d'autres.
Il y a la fièvre qui vient
de sortir. Ça, c'est Éric Benzekri qui est sur la même ligne, j'allais dire. Et donc, voilà. Donc, c'est très étonnant. Il y a eu une ou deux tentatives plus ou moins réussies, mais tous nos diffuseurs avaient peur de ça. Et c'est dommage, parce que ça fait partie aussi de la familiarisation du public avec un monde. Et ça fait partie d'un univers qu'on s'approprie. Et voilà, donc, moi j'ai mis ma modeste partie avec le Parlement, et puis j'essaierai avec d'autres choses, mais historiquement c'était difficile, je peux vous dire. Ouh là 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 là.
Je vous en prie, monsieur.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement que c'est à plusieurs épaisseurs, quand on peut le regarder simplement comme un divertissement, je trouve ça très drôle. Mais quand on creuse, on peut revoir les épisodes, on comprend des choses qu'on n'a pas vues au premier épisode, et la profondeur, voilà, il y a du fond.
Bonsoir, merci beaucoup. Moi, c'est une première aussi, hein, je ne connaissais pas. Et alors, sinon, moi, je voudrais faire un petit clin d'œil local, parce que j'ai été absolument scotchée. Il me semble que c'est la lobbyiste britannique qui, à un moment, a dans ses mains un ouvrage qui s'appelle Horace le Marin. Et l'ouvrage en question, bah, il a été réalisé par des éditeurs et créateurs locaux.
Ah bon ?
Oui. À la fois, donc ça va, ce qui est donc une toute petite édition et des créateurs, dessinateurs locaux, donc c'est Aude Béliveau et Lucien qui sont, et à la limite, donc j'en ai, c'est drôle, ça m'a vraiment scotché que vous ayez sorti cet ouvrage-là qui est un ouvrage qu'on voit très très bien dans le film.
Bon, j'ai vu les trois séries, les trois saisons. Autant je trouve la dérision effectivement à valeur documentaire, c'est très intéressant. J'ai trouvé quand même, si vous permettez, une exagération sur le président du Parlement. C'est énorme et ça peut effectivement, à partir de là, déstabiliser certains, parce que là, on est...
On
est dans les pieds nickelés, là, presque. Voilà. Autant le reste est complètement crédible, malgré l'humour. Là, l'élection du président et sa façon de se comporter, là...
Oui, je suis d'accord. Mais bon, c'est pas moi qui décris.
C'était le petit point.
Non, mais c'est drôle, je pense à la même chose que vous. Je trouve qu'ils y sont allés un peu fort. Mais bon, il serait là, il répondrait à ma place, le pourquoi du comment. Mais cela dit, Philippe Duquesne est merveilleux.
Ah oui, mais ça...
Il est populaire, et puis bon, voilà, au bout d'un moment, ça marche. C'est vrai que dans des réunions, il est tragique, mais bon, il faut bien... Ça permet aussi de souffler un peu, parce qu'il y a des moments qui sont denses, donc ouf, on détend l'atmosphère comme ça. Hein.
En même temps, on voit comment un président est aussi accompagné d'un directeur de cabinet qui veut tout, qui veut le manipuler quelque part. Voilà, il y a tous ces entourages aussi qui jouent leur rôle, qui jouent leur contrepoids, et je trouve ça c'est assez intéressant. Ça montre également les faiblesses, quelque part, de cette construction à Masselette, cette difficulté de trouver des compromis. Voilà, donc ça en rigole, mais en même temps, on voit l'effort que c'est et pour essayer de trouver, de tenir compte des avis des uns des autres, des intérêts des uns et des autres. Et c'est ça aussi la construction européenne, de ce point de vue-là.
On est obligé d'incarner avec des personnages aussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez raconter sur l'Europe ? Donc, on invente des personnages. On joue évidemment sur les stéréotypes des pays parce que ça marche et parce que c'est aussi une manière de rentrer dans la réalité. Mmh. Et puis après ça, on raconte des histoires d'hommes et de femmes pour faire passer le message de, voilà, on arrive quand même à travailler ensemble, il s'y passe des choses, il faut se mettre d'accord, il reste beaucoup à faire. Bon, c'est ça le propre de la fiction, c'est de toujours incarner une histoire à travers des hommes et des femmes, comme d'ailleurs ce sont des hommes et des femmes qui font l'Europe ou qui veulent l'avoir de l'Europe. Hein.
Ce que je trouve intéressant, alors on ne le voit peut-être pas forcément dans cet épisode-là, mais en fait les personnages principaux, c'est les assistants parlementaires en fait. Et il y a toute une partie de la série aussi qui tourne sur leurs histoires. Et ça, c'est aussi... C'est aussi très amusant et ça ne parle pas forcément du Parlement européen, ça parle de la jeunesse en fait.
Bonsoir. Alors moi je fais partie des gens qui aiment beaucoup le rôle du président du Parlement parce que justement c'est un moyen d'amener des gens qui ne sont pas intéressés à la politique à regarder la série. Finalement on peut leur expliquer tout le reste et ça fait partie des recommandations que je fais, notamment j'accompagne des jeunes ou autres pour leur dire bah, regardez cette série, c'est intéressant pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'Europe.
Juste une petite remarque aussi, alors même si je n'ai pas le temps de regarder les séries, je les commence, et puis après j'arrêterai tout. Et il y a deux séries qui m'ont marqué au niveau politique, c'est Borgen et House of Cards, et aussi Baron Noir, que j'ai pu finir, celle-là quand même. Et je me posais la question, enfin, la remarque, c'est que moi, ces séries me dégoûtaient plus de la politique que celle-là. Parce que quand on voit House of Cards... C'est un milieu qui est affreux. Voilà. Et je me demandais si c'était possible de faire une série française sérieuse, entre guillemets, sur la politique. Enfin, il y a Baron Noir. Mais sur la politique européenne. Comme vous devez en faire une autre.
Oui.
Qui était un petit peu différente.
Oui.
Voilà. C'est une piste pour vous. Quoi.
Oui, l'autre sera. Enfin, on va voir si on arrive à la vendre. Ils ont une idée, mes auteurs. Elle est assez pointue, donc il faut que je convainque France Télévisions. Mais on va voir. On verra. Ah, je peux rien dire.
On peut rien dire.
Non. D'accord. Surtout si je me plante. Donc, je l'aime. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est souvent le cynisme qui est mis en valeur de la classe politique. C'est difficile d'avoir les bons équilibres. Il doit en exister. Les Britanniques ont dû en faire, je pense. Regardez de près.
Ben voilà, donc je pense qu'on peut remercier Fabienne d'être venue jusqu'à nous.
Journal de bord d'un élu local, c'est l'épisode 111. Agriculture, la question de l'eau, c'est la partie 2. Avec notre invitée Marine Carasset de Biocentre. C'est parti! Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Marine, bonjour Nicolas.
Salut Gaël.
Marine Carasset, notre invitée.
Toujours conseillère territoire. Pardon,
t'es conseil... Non, il n'y a pas de problème, t'es conseillère territoire à Biocentre. Exactement, c'est le troisième épisode qu'on fait avec toi pour parler un petit peu de l'eau et d'agriculture. Et donc, vous étiez dans une discussion enflammée et je me suis permis de vous interrompre. On va reprendre cette discussion si vous voulez bien.
C'est parti.
C'est parti.
Aujourd'hui, ce qu'on se retrouve, c'est qu'on a des agriculteurs à qui on demande de changer de pratique, mais on ne leur achète pas leurs produits au coût du changement de pratique. Alors qu'à côté de ça, on va devoir payer très cher la dépollution de cette eau. On s'en retrouve à diluer, ce qui n'est pas une solution de long terme, c'est certain. Parce qu'un jour on ne pourra plus diluer l'eau est pour des coûts très importants à fermer des stations d'épuration, à mettre des filtres de plus en plus importants, mais aussi on a un coût sur la sécurité sociale, parce qu'aujourd'hui les maladies pour cause environnementale qui sont dues aux intrants agricoles, diabète de type 2, cancer, on a tout l'ensemble des maladies environnementales, dont ça représente aujourd'hui, pour la sécurité sociale, plus de la moitié du budget de la PAC à peu près en France. Donc c'est assez simple de se dire que finalement, plutôt que de mettre autant d'argent pour réussir à dépolluer l'eau, autant d'argent pour réussir à soigner les gens après coup, si on pouvait mettre cet argent directement auprès des agriculteurs pour prévenir plutôt que guérir et acheter leurs produits au juste prix en fonction de la qualité de leurs pratiques, ça serait beaucoup plus efficace et vertueux.
Et le blocage, il est où alors ?
Alors, en partie, les choix qu'on peut faire, la PAC, la nouvelle PAC telle qu'on l'a votée a presque fait régresser plutôt qu'avancer ça, c'est-à-dire qu'on continue de financer en fonction des tailles d'exploitation, ce qui pousse vers une agriculture industrialisée et non pas en fonction de la qualité des pratiques. Ça, c'est un des plus gros freins. Et puis là, après, nous, localement, ce qu'on essaye de mettre en place et qui semble intéressant, c'est notamment les paiements pour services environnementaux. C'est-à-dire qu'un agriculteur à qui tu vas dire, bon ben, le long de la rivière, on te demande de ne pas cultiver dans les 4 mètres proches de la rivière, il va perdre un certain nombre d'hectares. Et ben, tu le rémunères pour ces hectares qui ne cultivent pas, par exemple, pour pouvoir préserver la qualité de l'eau. Ou quand on demande de mettre, l'Europe demande de mettre un pourcentage en friche, ce qui est en partie aujourd'hui remis en cause par certains syndicats et pas du tout par d'autres, pour permettre à la terre de se reposer et de gérer parfois des surplus d'intrants. Ben ça aussi, il faut que ça puisse être valorisé financièrement pour l'agriculteur. Voilà, des choses comme ça. Il y a plein de leviers possibles. Mais en tout cas, c'est une direction générale à prendre et à impulser et à assumer politiquement, je pense, pour créer un avenir durable et une visibilité aussi bien pour les agriculteurs que pour les citoyens par rapport à l'eau.
Après, le blocage, il peut être technique. Donc l'agriculteur ne sait pas comment faire ou ne connaît pas les pratiques alternatives. Il peut être économique. Est-ce que la filière rémunère assez pour que je change de pratique? Il faut quand même le prendre en compte. Les exploitations agricoles, ça reste des entreprises, donc il faut qu'ils puissent vivre de leur métier.
Et c'est logique ça. On entend ça. Non, c'est vrai.
Oui, logique. Personne. Enfin, il y a peu de monde qui travaillerait pour rien en fait. Hein,
ouais, c'est sûr.
Concrètement. Et quand on regarde un salaire d'agriculteur au temps passé sur sa ferme et son exploitation, on est loin du SMIC horaire hein, quand même. Donc, voilà.
Là encore, si tu me permets, un des problèmes en agriculture, c'est aussi les écarts de salaire.
Oui.
C'est pas seulement.
Il y a les écarts de salaire, il y a le fait qu'ils sont pas. C'est pas leur rémunération, elle n'est pas due à leur travail, elle est due à des aides qui sont. Voilà, comme tu disais, géré sur la surface. Et le dernier point de blocage qui n'est pas négligeable et qu'on néglige très souvent sur les aires d'alimentation de captage ou les projets alimentaires territoriaux, c'est l'aspect sociologique, en fait. C'est quelle est la représentation du métier que j'ai ? Quelle est la représentation des contraintes environnementales que j'ai ? Et tout ça, à Biocentre, on essaye de sensibiliser les collectivités pour mettre en place des actions au départ d'études sociologiques du territoire pour mieux comprendre les blocages des agriculteurs. Parce que, on le sait, maintenant, sociologiquement, la représentation que j'ai, moi, du métier et des contraintes, enfin de l'aspect environnemental ou la représentation de mes voisins ou de ma famille, compte autant, voire plus, dans les changements de pratiques. Si je sais que ma famille n'approuve pas, si je sais que je vais être mal regardée par mon voisin, je ne vais pas partir dans cette direction-là, alors que je peux le faire, j'en suis capable, et je serais même intéressée, ou je n'y vois pas d'inconvénient, parce que la représentation autour de moi, elle n'est pas favorable.
Oui, et c'est vrai que moi je sens, là on organise un débat sur les pesticides, on sent des tensions, et alors que l'idée ça serait de réussir à faire dialoguer plusieurs mondes, et en fait on sent des tensions entre des agriculteurs conventionnels qui sont prêts à bouger, qui ont des vraies problématiques et qui sont tout à fait légitimes, des agriculteurs bio, mais en fait des fois t'as l'impression que chacun a son cercle de connaissances et d'amis et de confiance, et que passer d'un cercle à l'autre c'est difficile, et qu'en fait les blocages sont presque sociologiques, accepter de discuter avec l'autre, et qu'en fait on peut parler posément et peut-être échanger et avoir des...
Autour de l'agriculture, tous les sujets ils sont presque passionnels en fait. L'attachement à la terre, il est très fort. La représentation du métier, c'est des métiers où les gens donnent de leur personne, mettent de leur personne. Mmh. Et donc, quand on parle de changement de pratique, c'est remettre en cause leur propre personne. Et c'est ça aussi qui est difficile à comprendre pour les accompagner au changement de pratique.
Oui, parce que c'est pas le cas, pour le coup.
Ah non, c'est pas que... C'est, voilà, en fait, il faut remettre le débat au centre. La problématique, elle est sur l'impact environnemental des pratiques. Elle n'est pas
sur les gens.
Sur les gens.
C'est savoir se distinguer. Mes pratiques sont questionnées, ouais, mais pas ma personne.
Mais pas ma personne. Et ça, c'est fondamental.
J'avais envie de parler, parce que là, on a parlé vraiment de l'aspect qualitatif, un peu de l'aspect sociologique aussi, mais pas du tout de l'aspect quantitatif et de la question des nappes. On a des enjeux aussi sur nos nappes. Si je prends l'Agropolis, sur le nord de l'agglomération, en gros, on va avoir des nappes de surface, donc qui vont varier plus fortement en fonction des saisons, du climat. Après, la nappe de Beauce, qui est la principale nappe sur laquelle l'agriculture va pouvoir pomper. Puis on a une nappe plus souterraine, qui a plusieurs centaines de mètres de profondeur, et qui est entourée par une bande argileuse. C'est ce qu'on appelle une nappe captive, c'est-à-dire qu'elle est presque préhistorique.
Elle ne sort pas. Elle ne sort pas et rien ne rentre.
Rien ne rentre, rien ne sort. Donc on a une qualité d'eau absolument exceptionnelle, mais en même temps, tout ce qu'on prendra comme eau là-dedans ne se renouvellera pas. Mmh. Et cette nappe captive, qu'on appelle les nappes du cénomanien, c'est celle dont on va se servir pour réussir à continuer de faire de l'eau potable. Quand on a une eau qui est, par exemple, trop chaude en Loire, parce qu'on prend 60% de l'eau sur Blois, on prend 60% d'eau dans la Loire, 40% d'eau dans les nappes. Quand l'eau de la Loire est trop chaude, au-dessus de 23 degrés, on a trop de développement bactérien, on va prendre plus que 40% de Loire et 60% d'eau de cette nappe pour la refroidir et réussir à continuer de faire de l'eau potable. C'est une nappe captive, et celle-là, normalement, je dis bien, parce qu'il y a quelques agriculteurs qui le prennent dedans, elle n'est pas ouverte à l'agriculture. Et donc, la question, c'est la gestion de la nappe, pour l'agriculture, la gestion de la nappe de Beauce. Et Marine a une expertise meilleure que moi là-dessus, donc peut-être que je vais te laisser en parler sur la manière dont cette nappe est.
Et conclure là-dessus.
Ouais. Conclure là-dessus. Les prélèvements agricoles, en fait, ce sont un fonctionnement généralement de quotas, je dirais, individuels. Donc on attribue à un agriculteur un quota annuel possible de forage, de prélèvement. Sur la nappe de Beauce, comme on avait des problématiques quantitatives assez tôt, il y a quelques années, on a mis tous les quotas individuels en commun pour faire un pot commun. Et donc, c'est un organisme, en fait, qui gère, donc on appelle ça un organisme unique de gestion collective, qui gère l'ensemble des quotas et qui attribue des quotas selon le niveau réel de la nappe chaque année. Donc en avril, on fait le point, est-ce que la nappe s'est remplie correctement ou pas? Si oui, vous avez 100% de vos quotas, sinon vous n'avez que 80%, 70%, 50%. Et donc chaque année, les agriculteurs donnent leurs besoins réels et on leur attribue des quotas annuels, temporaires. alors que habituellement sur les autres nappes, on a plutôt tendance à donner des quotas annuels, je dirais pas à vitam aeternam, mais qui ne sont pas du tout remis en cause.
Donc voilà. C'est plutôt une bonne chose, parce qu'au moins il y a une remise en cause par rapport à la réalité de l'eau disponible.
Et c'est une gestion collective. Le seul, je dirais, le seul bémol de ce fonctionnement, c'est que c'est une gestion interne à la profession agricole. Et donc,
c'est la chambre et le syndicat des irrigants, voilà,
principalement. Et ce qui pourrait être intéressant, enfin nous, Réseau Bio, ce qu'on porte quand même, c'est qu'il y ait d'autres acteurs usagers de l'eau qui puissent intervenir dans cette gouvernance pour pouvoir mettre les choses à plat et que tout le monde soit... l'eau est un bien commun. Voilà.
Notamment les gens qui gèrent les rivières ou la biodiversité.
La biodiversité, les associations de pêche, la Fédération nationale de l'environnement.
Il y a plus de monde autour de la table pour gérer ça.
Et les consommateurs surtout, parce que c'est eux qui, au final, sont le plus impactés.
Sur ce sujet du prélèvement dans les nappes, ce qui semble important en tout cas à questionner, c'est la capacité de pouvoir donner des prélèvements aux personnes qui s'installent. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet, notamment pour les maraîchers. Et c'est vrai pour beaucoup de territoires, c'est-à-dire qu'on a tendance à répartir entre les usagers déjà existants, et c'est très important de pouvoir avoir des modes de gestion qui permettent aussi de remettre à plat en fonction des surfaces et des productions de chacun, sans trop prendre en compte l'historique, en le prenant moins en compte, de sorte que quand on veut installer quelqu'un, il lui reste des droits de prélèvement pour son activité.
Parce que c'est pas le cas là, quand quelqu'un arrive, c'est pas le cas.
Il me semble qu'il y a un pourcentage qui est laissé pour les gens qui s'installent, mais en réalité, quand tu t'installes aujourd'hui, tu as des droits de captage très très inférieurs à ceux qui ont des droits de captage historiques qui sont liés à leur terrain. Et c'est pas et donc cet historique pèse très fort dans la répartition des prélèvements. Là où il n'y a pas du tout d'OUGC, d'organisme unique de gestion de collective de nappes, pour le coup, quelqu'un qui veut s'installer, comme il n'y a pas du tout de remise en cause, il ne peut plus s'installer parce que toute l'eau est déjà distribuée entre tous ceux qui sont déjà présents sur le territoire. Et là, c'est pour un maraîcher, par exemple, c'est très difficile, voire presque impossible de s'installer n'ayant pas de droit de prélèvement possible.
Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup.
À bientôt. Attends.
Hop.
Merci à vous.
Merci d'être venu. Ouais. Nico, il se moque de moi parce que je mets le générique en direct. Mais merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça, de nous avoir parlé de tout ça.
Merci.
Et puis
avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Salut.
Salut Nico.
Salut Gaëlle.
On peut écouter les épisodes sur les applis de podcast. Et il y a plus de 100 épisodes. Vous pouvez l'écouter sur Studio Zef 91.1.
Dans l'émission La Lorgnette. Retourne-moi et Clémentine. Et aussi écouter les épisodes sur Blois Capital.
Merci à tous ceux qui nous écoutent.
Merci à Clément et à Jules.
Et si vous êtes sur Studio Zef tout de suite, c'est les Roxettes.